7h-9h, les matins de France Culture. Guillaume Herner.
Qui, pour succéder à Ruth Bader Ginsburg, décédée vendredi à 87 ans, Ruth Bader Ginsburg, c'est cette femme qui était juge à la Cour suprême aux États-Unis depuis 1993. Sa disparition laisse le pays face à un enjeu hautement politique en pleine campagne présidentielle. Pourquoi ? Quels sont les pouvoirs d'un juge de la Cour suprême aux États-Unis ? Bonjour François Verniol de Chantal.
Bonjour.
Vous êtes professeur de civilisation américaine à l'Université de Paris. Alors, il faut nous rappeler en quoi consistent les pouvoirs d'un juge à la Cour suprême aux États-Unis.
Alors, je crois que la première chose à expliquer aux auditeurs, c'est l'importance et la visibilité de la Cour suprême, et donc partant des juges qui la composent. La Cour, si vous voulez, n'est pas une simple Cour de justice. Elle est le sommet du pouvoir judiciaire. Mmh. Et en fait, si on devait reprendre une comparaison avec la France, eh bien la Cour suprême américaine cumule les pouvoirs de nos magistratures suprêmes, c'est-à-dire le Conseil d'État, la Cour de cassation et le Conseil constitutionnel. Les trois ensemble pour comprendre ce qu'est la Cour suprême aux États-Unis.
Donc cette Cour suprême, elle comprend 9 juges, dont un président. On se dit évidemment que dans ce contexte-là, le remplacement d'un juge est un enjeu essentiel. Que disent les textes à ce sujet, François Verniol de Chantal ?
Eh bien, la Constitution nous explique que les juges à la Cour suprême sont nommés par le président, c'est-à-dire désigné par le président, et ensuite il revient au Sénat de confirmer le choix présidentiel. C'est une procédure qui est en fait extrêmement politisée, dans la mesure où depuis des décennies, en fait, les présidents américains utilisent ce pouvoir pour renforcer leur legs et pour faire en sorte que l'interprétation de la loi soit favorable aux décisions qu'ils ont prises pendant leur mandat. Donc le processus de nomination à la Cour suprême a été presque dès le départ politisé, il a été idéologisé aussi très rapidement, et c'est un fonctionnement qui a été utilisé à la fois par les présidents de gauche et par les présidents de droite. C'est-à-dire que dès les années 30, Franklin Roosevelt a essayé de transformer la Cour suprême. Ça a été un petit peu difficile, mais finalement, il y est arrivé. Et la Cour suprême qu'il a mis en place est une Cour suprême progressiste, engagée à gauche, qui va être, 2 décennies plus tard, la Cour suprême va contribuer à l'émancipation des populations noires. Et le phénomène a été identique à droite, c'est-à-dire que à partir des années 80, un des enjeux de la présidence Reagan a été de politiser justement les cours fédérales, et je dis bien les cours fédérales, c'est-à-dire que par rapport à Roosevelt, la tactique initiée par Reagan a été beaucoup plus ambitieuse. Il ne s'est pas contenté d'influencer la Cour suprême, mais il a tenté de modeler l'ensemble des cours fédérales.
Mais alors, le remplacement de Ruth Bader Ginsburg, puisque dans sa délicatesse, Donald Trump a dit qu'il attendrait peut-être ses funérailles, donc ce remplacement interviendrait peut-être, ou en tout cas la nomination interviendrait vendredi ou samedi prochain. Est-ce que la Constitution autorise cela, François Verniol de Chantal ?
Alors, la Constitution ne dit absolument rien sur les délais. Les délais sont gérés par le président et essentiellement par le président du Sénat, par le chef de la majorité au Sénat. On est dans un système de séparation du pouvoir. La confirmation des juges à la Cour suprême est un des pouvoirs constitutionnels du Sénat. Donc c'est le Sénat qui gère la nomination présidentielle.
D'accord, donc c'est tout à fait légal, mais ensuite il faut que les membres du Sénat avalisent cette désignation. On a entendu dire qu'il y avait 1 puis 2 républicains qui ne voulaient pas une désignation avant l'élection présidentielle. Est-ce que Vous pensez que cela peut se multiplier, ces républicains qui décideraient de ne pas voter avant l'élection?
Alors, il y a en fait une majorité de 53 sénateurs républicains. Donc c'est une majorité qui est extrêmement limitée sur 100 sénateurs. Et effectivement, certains sénateurs parmi les plus modérés, deux jusqu'à présent, ont déclaré qu'ils n'étaient pas favorables à une nomination, enfin une confirmation pour être exact, avant l'élection. Je pense qu'on va en rester là, parce que les républicains sont très unis. Et derrière le président Trump, et un des enjeux essentiels pour eux, depuis le début de la présidence Trump, est précisément la nomination de juges conservateurs. Le président Trump a déjà nommé plus de 200 juges conservateurs dans les cours fédérales. Il n'y a aucune raison pour qu'il s'arrête maintenant en si bon chemin. Du point de vue des conservateurs, c'est une opportunité unique. Je crois que vraiment, il faut quand même souligner que ce monsieur Trump a beaucoup de chance. C'est une opportunité unique qu'ils ne vont certainement pas gâcher.
En quelques mots, François Verniolle de Chantal, est-ce que dans l'hypothèse, par exemple, où le scrutin de novembre prochain serait extrêmement disputé, peu de différence entre les deux candidats, est-ce que la Cour suprême jouerait un rôle important ?
Alors, c'est un scénario qui est redouté par les démocrates, puisque effectivement, au vu de la situation actuelle, tout le monde pense au précédent de l'élection de 2000. L'élection de 2000 où la Cour suprême est intervenue pour désigner le vainqueur et pour faire en sorte que George W. Bush soit finalement désigné vainqueur. Techniquement, la Cour suprême ne serait pourtant pas directement amenée à se prononcer, puisque tout ce qui est du ressort du droit électoral est local, donc les acteurs privilégiés seraient les cours suprêmes d'État. Mais d'un point de vue politique, il est très vraisemblable qu'une administration Trump en difficulté après une élection serrée se tournerait vers la Cour suprême, exactement comme a pu le faire la campagne de Bush en 2000. Techniquement, c'est très audacieux et ça a été en 2000 très très critiqué dans les milieux juridiques, mais politiquement, c'est vraisemblable, oui.
Merci beaucoup François Verniolle de Chantal. Je rappelle le titre de votre dernier ouvrage, L'impossible présidence impériale, c'est aux éditions du CNRS.